Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir. Les députés ont voté comme prévu aujourd'hui la fin de l'impôt de solidarité sur la fortune. L'ISF sera remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Quel est le montant du cadeau ainsi fait aux plus aisés des contribuables? Le gouvernement, depuis plusieurs jours, est pressé de questions. Ses réponses n'arrivent qu'au compte-gouttes. Analyse à suivre de Stéphane Robert. Les dénonciations de crimes et délits sexistes et sexuels continuent à pleuvoir ce soir. Tous les milieux sont concernés, toutes les classes sociales en France comme ailleurs. Et désormais, les plaintes abondent. Ce soir, Tariq Ramadan se retrouve à son tour accusé par une ancienne collaboratrice. Explication de Mathilde Lemaire. Et puis les néonicotinoïdes peuvent-ils être de nouveau autorisés? On en prend visiblement le chemin puisque deux insecticides contenant du sulfoxaflore viennent d'être autorisés à la vente en catimini par l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, dont l'attitude et le fonctionnement méritent d'être regardés de près. Invité de ce journal, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. C'est fait. Les députés ont voté tout à l'heure à l'Assemblée la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il sera remplacé par un impôt sur la fortune immobilière. Et malgré tous les efforts de pédagogie des membres du gouvernement, l'image de président des riches va probablement de plus en plus coller à Emmanuel Macron. La preuve, Bruno Le Maire est désormais pressé de fournir le résultat d'études effectuées par Bercy sur les gains que vont réaliser les plus gros contribuables français avec cette réforme. Problème pour le ministre de l'économie, plus il donne d'informations, plus on lui en demande. Stéphane Robert.
C'est un peu comme si Bruno Le Maire était engagé sur une pente sablonneuse qui l'entraîne inexorablement vers le bas. Depuis mercredi dernier, depuis que le Canard enchaîné a révélé que Bercy avait réalisé des études sur les effets de la suppression de l'ISF, il ne se passe pas une minute sans que quelqu'un demande au ministre de l'économie d'en dévoiler les résultats. Combien d'argent sera ainsi restitué aux 100 plus gros contribuables français ? « Je peux pas vous le dire, secret fiscal », a d'abord répondu le maire. « C'est donc que vous avez quelque chose à cacher, monsieur le ministre », lui a-t-on rétorqué, notamment le socialiste président de la commission des finances au Sénat, ainsi que le rapporteur du budget à l'Assemblée, Joël Giraud. Alors Bruno Le Maire a commencé à lâcher du lest. « Les 1000 plus importants contribuables payent 400 millions d'euros d'impôts sur la fortune », a-t-il d'abord concédé. « Non, monsieur le maire, pas les 1000, les 100 plus gros ». Les 100 plus importants contribuables français payent 126 millions d'euros d'ISF. Oui, mais ce que vous ne dites pas, monsieur le maire, c'est combien d'argent va leur revenir avec la flat tax, la taxe sur les revenus du capital, que vous avez abaissée à 30%. Et les demandes comme ça de transparence risquent d'être de plus en plus insistantes et de plus en plus précises, jusqu'à ce qu'on ait débusqué le moindre euro reversé aux nantis. Dès lors, tout effort de pédagogie de la part du gouvernement semble vain. En supprimant l'ISF, Emmanuel Macron semble s'être définitivement attribué le qualificatif de président des riches.
Stéphane Robert. À Bruxelles, au deuxième jour du sommet européen des chefs d'État, Theresa May a tenté de faire retomber un peu la tension sur la question du moment, la phase 1 des discussions sur l'ardoise britannique envers l'UE. Elle est loin d'être réglée, mais la Première ministre veut faire bonne figure pour faire avancer la phase 2. Élise Delève.
Sur la question financière, nous avons fait la moitié du chemin, estime Emmanuel Macron.
Nous sommes aujourd'hui loin du compte sur le plan des engagements financiers. Et si nous souhaitons être sûrs que personne n'aura à payer davantage ni à recevoir moins, et être sûr que le Royaume-Uni honorera l'ensemble de ses engagements pris en tant que membre de l'Union européenne, aujourd'hui, je dirais que nous sommes loin d'avoir atteint les engagements financiers nécessaires pour engager la phase 2.
Cette phase 2 est très attendue par les Britanniques. Elle définit la future relation, notamment commerciale, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Depuis le début des négociations, Theresa May demande à ce qu'elle soit déclenchée avant la signature du chèque. Elle l'a répété devant les 27 lors de ce sommet. Le scénario d'un Brexit sans accord commence à émerger au Royaume-Uni. Ces rumeurs de blocage sont exagérées. Tant père Donald Tusk, président du Conseil européen. Les 27 ont même envoyé un signal positif à Theresa May ce matin. Ils ont décidé de commencer à préparer en interne la deuxième phase.
L'onde de choc mondiale dans la foulée de l'affaire Weinstein ne faiblit pas. Les révélations, les accusations pleuvent de toutes parts, notamment sur les réseaux sociaux. Mais la justice, désormais, est également saisie. De nombreux cas présumés d'agression et de harcèlement sexuel sont déposés. Le député La République En Marche de Moselle, Christophe Arend, est ainsi visé ce soir par une plainte de son ex-assistante pour harcèlement et agression sexuelle. Il conteste les faits et annonce avoir déposé plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Pierre Joxe ou encore le conseiller régional d'Île-de-France, anciennement PS Gilbert Cozou, sont également visés par des plaintes. Ce ne sont là que les derniers noms d'une liste qui ne cesse de s'allonger. Autre dossier dont la justice a été saisie, celui d'une plainte visant Tariq Ramadan. Explication de Mathilde Lemaire.
Enda Ayari, 40 ans, est une ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque. Dans un livre paru il y a un an intitulé « J'ai choisi d'être libre », elle explique comment elle s'est libérée des chaînes mentales de cette idéologie qui l'avait anesthésiée sous son djilbab, écrit-elle. Dans un des chapitres, elle raconte avoir été victime d'un illustre théologien. Un rendez-vous dans une chambre d'hôtel à Paris en 2012. Cet intellectuel musulman vient d'y donner une conférence. Il a très largement profité de l'admiration que je lui portais, précise-t-elle. Quand elle s'est rebellée, lui criant d'arrêter, elle décrit « Il m'a insulté, giflé, violent. » Aujourd'hui, 5 ans plus tard, sur son mur Facebook, Enda Ayari révèle l'identité de celui qu'elle accuse, l'avocat de la jeune femme, maître Jonas Haddad.
Elle a décidé de porter plainte contre Monsieur Ramadan, qu'elle décrivait sous le pseudonyme de Zoubeïr dans son ouvrage, qui en fait correspondait à Tariq Ramadan. Donc elle a décidé d'en tirer les conséquences judiciaires pour ne pas être simplement dans la dénonciation, mais de porter plainte aujourd'hui auprès du parquet de Rouen. Pour viol, agression sexuelle et pour intimidation. C'est pas simple de s'en prendre à n'importe quel personnage quand on est une femme qui subit ce genre d'actes, et encore moins quand c'est un personnage public. Ma cliente aujourd'hui, elle est inquiète, soulagée, mais déterminée.
Enda Ayari avait songé à porter plainte après les faits, mais dit avoir été menacée de représailles, y compris sur ses enfants. Nous avons sollicité Tariq Ramadan, sans réponse pour l'heure.
Mathilde Lemaire. En Espagne, à la veille d'un conseil des ministres exceptionnel qui sera consacré à la crise catalane, en vue probablement de déclencher l'article 155 pour une mise sous tutelle de la région rebelle, le roi s'exprime ce soir. Il a dénoncé une inacceptable tentative de sécession. Felipe VI a qualifié la Catalogne de partie essentielle de l'Espagne du 21e siècle. Nous ne voulons pas renoncer à ce que nous avons construit ensemble, a poursuivi le roi, soulignant les progrès d'une Espagne qui a su surmonter, je cite, les erreurs du passé. 6 hommes ont été condamnés cet après-midi à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison pour des activités terroristes. Ils appartenaient à une filière toulousaine du djihad et ont été reconnus coupables de départ en Syrie en 2014. Certains des condamnés appartenaient à la même mouvance que celle de Mohamed Merah. Et justement, le procès du frère du tueur au scooter, Abdelkader Merah, se poursuit. Il est jugé aux côtés de Feta Malki devant la cour spéciale, la cour d'assises spéciale de Paris. Et c'était la fin aujourd'hui de la 3e semaine d'audience avec l'audition qui était très attendue du principal accusé sur les questions de religion. Florence Turm.
La parole est à la partie civile et maître Laurence Sechman s'empare du micro. En voilà une belle leçon de taqiya que vous venez de nous livrer. Elle fait référence à la ruse utilisée par les terroristes islamistes pour tromper l'ennemi. Abdelkader Merah ne la regarde pas, tournée vers les magistrats qui composent la cour, commence toutes ses réponses par « Monsieur le Président ». L'avocate cite une conversation entre sa mère et lui. « Maman, le cadeau que m'a fait Mohamed, c'est le plus beau que l'on m'ait fait ». La réponse est simple, réplique l'accusé. Dans l'islam, le Créateur nous éprouve. Cette incarcération injuste, je la considère comme une épreuve de purification des péchés. Autre conversation avec votre mère, poursuit Laurence Sechman. Si je devais avoir un enfant, je l'appellerais Mohamed. Oui, c'est mon petit frère, c'est mon sang. Et oui, si j'avais un enfant, je l'appellerais Mohamed en souvenir de mon petit frère. Pouvez-vous éclairer la cour, interroge l'avocate. Votre frère, c'est un martyr. Abdelkader Merah continue de biaiser. Il existe plusieurs sortes de martyrs. Une personne qui meurt noyée dans la mer, une femme qui meurt alors qu'elle attend un enfant. Vous ne voulez pas répondre, l'interrompt Laurence Sechman. Devant le box, l'avocat de la défense, Éric Dupont-Moretti, s'agite, proteste. L'accusé reprend, mais de plus en plus fidèle. J'ai condamné de manière claire, si je dois me répéter à chaque question, ça s'appelle de l'esquive, monsieur. Oui, mon frère, c'est un musulman terroriste, finit-il par lâcher, et personne n'échappe à la justice divine, mais comment pourrais-je souhaiter qu'il aille en enfer plutôt qu'au paradis ?
Florence Turm, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture, Stéphane Travert et Nicolas Hulot, demandent ce soir conjointement des précisions à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Une demande qui porte sur le sulfoxaflor. Ce principe actif se retrouve dans deux insecticides récemment autorisés par l'ANSES, le Closer et le Transform, au désespoir des apiculteurs qui voient arriver de nouveaux tueurs d'abeilles qu'ils considèrent d'ailleurs faire partie de la famille des néonicotinoïdes. Nicolas Hulot et Stéphane Travert demandent à l'ANSES d'étudier de façon prioritaire les données complémentaires relatives aux risques encourus pour les abeilles et pour la santé humaine. Il faut dire que pour beaucoup, la mise sur le marché de ces deux nouveaux produits rendrait caduque et inopérante l'interdiction, pourtant prévue à partir de 2018, des néonicotinoïdes. Invité de ce journal, Yannick Jadot, bonsoir.
Bonsoir.
Eurodéputé écologiste, est-ce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire porte, selon vous, toujours bien son nom ?
On a un vrai problème aujourd'hui avec les agences censées protéger notre santé, l'environnement. On a des autorisations de nouveaux néonicotinoïdes qui sont absolument absurdes, absolument hors propos, à l'inverse de la tendance à la fois de l'attente de la société par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, et à l'attente des apiculteurs qui voient décimer leur ruche.
C'est vrai qu'on n'y comprend plus rien parce que ces deux substances ont été jugées en 2014 par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire comme présentant un risque élevé pour les abeilles et les petits mammifères. Et cela dit, l'EFSA avait elle-même autorisé la mise sur le marché de ces substances un an après avoir émis ces doutes.
On a des agences qui fonctionnent avec énormément d'experts, parce que incontestablement les sujets sont de plus en plus complexes, mais des experts dont on a du mal aujourd'hui à tracer, que ce soit au niveau français comme au niveau européen, le CV, les conflits d'intérêts potentiels, parce que aussi ces experts, même quand ils travaillent dans le public, travaillent en même temps sur des contrats avec des grandes firmes privées. Et puis surtout, on a là d'incroyables incohérences politiques. Au moment où justement le débat et les décisions politiques vont vers l'interdiction de ces produits très dangereux pour l'environnement et la santé, des agences qui l'autorisent. Il est temps que Nicolas Hulot intervienne et fasse cesser cette autorisation totalement absurde, au-delà d'être très dangereuse pour l'environnement.
On va revenir sur le ministre, mais est-ce que vous diriez que ces agences sont plus ou moins, et c'est peut-être entre les lignes ce que vous venez de nous dire, sont soumises plus ou moins directement, et peut-être plus directement qu'indirectement, au lobby ?
Il y a incontestablement la présence de lobbies. Les lobbies ont gangréné les agences censées protéger notre santé de plusieurs manières. À la fois parce que elles financent énormément de programmes aujourd'hui en lien avec la recherche publique, parce que aussi la recherche publique perd énormément de subventions. Donc on a des experts qui travaillent à la fois pour le public et pour le privé. Ça génère des conflits d'intérêts. Et puis on a ces agences, parce qu'elles ont peu de moyens de contre-expertise, sont obligées de travailler à partir de l'expertise fournie par les industriels, par ceux qui font tout aujourd'hui pour empêcher qu'on protège la santé, parce que ça va remettre en cause leurs perspectives financières, leurs dividendes. Et donc on est dans une situation dramatique. Il va falloir nettoyer éthiquement le fonctionnement des agences, les processus à la fois d'évaluation de ces substances dangereuses, mais aussi d'autorisation par les instances politiques. On le voit dans le cas des néonicotinoïdes, on l'a vu au niveau européen dans le cas des perturbateurs endocriniens ou dans le cas du glyphosate.
Alors justement, la semaine prochaine, c'est au niveau européen que les choses vont se passer concernant le glyphosate et le Roundup. Vous voyez les choses comment ? La Commission européenne doit prendre une décision importante sur les 10 prochaines années ?
La Commission européenne et les États membres, puisque c'est sur proposition de la Commission européenne que les États membres vont voter. Le Parlement européen a indiqué la voie cette semaine. Ça devrait être confirmé en plénière la semaine prochaine. C'est il faut sortir en 3 ans du glyphosate. Vous savez que quand on a une interdiction, les stocks produits et distribués généralement sont utilisées. Donc l'idée, c'est que on ait à une sortie en maximum 3 ans pour protéger l'agriculture, protéger notre santé, protéger l'environnement. Malheureusement, comme vous l'avez indiqué, pour le cas des réautorisations de néonicotinoïdes, les lobbies sont extrêmement puissants au niveau national, comme ils sont extrêmement puissants au niveau de la Commission européenne. Le Parlement européen indique la voie en faisant en privilégiant la santé sur les lobbies, en interdisant à Monsanto l'entrée même aujourd'hui du Parlement européen pour ses lobbyistes. Il faut que les États, face à un tel scandale, choisissent l'intérêt général et encore une fois pas l'intérêt des lobbies. Il faut se souvenir, hein, les 3/4 du glyphosate ont été utilisés dans l'histoire, ont été utilisés ces 10 dernières années, et il y a 10 ans, il m'a pas semblé que on sortait avec nos peaux de bêtes assommer le bison avec des gourdins. L'agriculture existait. Là, on est là à une dérive par rapport au Roundup qui est totalement folle. Ça détruit l'environnement, ça détruit notre santé, et puis surtout, ce type d'agriculture massacre les paysans dans les campagnes. Il y en a de moins en moins, il faut aussi les protéger.
Merci Yannick Jadot d'avoir répondu à nos questions ce soir. Un temps maussade demain avec de la pluie sur à peu près toutes les régions et des alternances d'éclaircies et de passages nuageux. Voilà pour les prévisions météo.